Toute la tradition de la Renaissance me répugne. Les règles rigoureuses de la perspective qu'elle réussit à imposer à l'art furent une effroyable erreur, et il a fallu 4 siècles pour qu'elle soit rectifiée. Cézanne, et après lui Picasso et moi-même, nous méritons qu'on nous accorde beaucoup de crédit sur ce point. La perspective scientifique n'est rien d'autre qu'un trompe-l'œil illusionniste. C'est tout simplement un artifice, un mauvais artifice, qui fait qu'il est impossible pour un artiste de communiquer une expérience complète de l'espace, puisqu'elle force les objets situés dans un tableau à disparaître aux yeux du spectateur, au lieu de les lui mener à sa portée, ainsi que doit le faire la peinture. La perspective est trop mécanique pour permettre à quelqu'un d'avoir une pleine possession des choses. Elle a son origine dans un point de vue unique et ne s'en échappe jamais. Mais le point de vue est de peu d'importance. C'est comme si quelqu'un passait son existence à dessiner des profils et finissait par croire que l'homme n'a qu'un œil.
Georges Braque.
La science classique est fondée sur une distinction claire de l'espace et du monde physique. L'espace, c'est le milieu homogène où les choses sont distribuées selon 3 dimensions et où elles conservent leur identité en dépit de tous les changements de lieu. Il y a bien des cas où, pour avoir déplacé un objet, on voit ses propriétés changer, comme par exemple le poids si l'on transporte l'objet du pôle à l'équateur, ou même la forme si l'augmentation de température déforme le solide. Mais justement, ces changements de propriétés ne sont pas imputables au déplacement lui-même. L'espace est le même au pôle et à l'équateur. Ce sont les conditions physiques de température qui varient ici et là. Le domaine de la géométrie reste rigoureusement distinct de celui de la physique. La forme et le contenu du monde ne se mêlent pas. Les propriétés géométriques de l'objet resteraient les mêmes au cours de son déplacement, n'étaient les conditions physiques variables auxquelles il se trouve soumis. Tel était le présupposé de la science classique. Or, tout change quand, avec les géométries dites non euclidiennes, on en vient à concevoir comme une courbure propre à l'espace, une altération des choses du seul fait de leur déplacement. Une hétérogénéité des parties de l'espace et de ses dimensions qui ne sont plus substituables l'une à l'autre et affectent les corps qui s'y déplacent de certains changements. Au lieu d'un monde où la part de l'identique et celle du changeant sont strictement délimitées et rapportées à des principes différents, nous avons alors un monde où les objets ne sauraient se trouver avec eux-mêmes dans une identité absolue, où forme et contenu sont comme brouillés et mêlés, et qui enfin n'offre plus cette armature rigide que lui fournissait l'espace homogène d'Euclide. Il devient impossible de distinguer rigoureusement l'espace et les choses dans l'espace. La pure idée de l'espace est le spectacle concret que nous donnent nos sens. Or, les recherches de la peinture moderne concordent curieusement avec celles de la science. L'enseignement classique en peinture distinguait le dessin et la couleur. On dessine le schéma spatial de l'objet, puis on le remplit de couleurs. Cézanne, au contraire, dit « À mesure qu'on peint, on dessine. » Voulant dire que ni dans le monde perçu, ni dans le tableau qu'il exprime, le contour et la forme de l'objet ne sont strictement distincts de la cessation ou de l'altération des couleurs, de la modulation colorée qui doit tout contenir, forme, couleur propre, physionomie de l'objet, rapport de l'objet aux objets voisins. Cézanne veut engendrer le contour et la forme des objets comme la nature les engendre sous nos yeux, par l'arrangement des couleurs. Et de là vient que la pomme qu'il peint, par exemple, étudiée avec une patience infinie dans sa texture colorée, finit par se gonfler, par éclater hors des limites que le sage dessin lui imposerait. Dans cet effort pour retrouver le monde tel que nous le saisissons dans l'expérience vécue, toutes les précautions de l'art classique volent en éclats. L'enseignement classique de la peinture est fondé, par exemple, sur la perspective. C'est-à-dire que le peintre, en présence d'un paysage, par exemple, décidait de ne reporter sur sa toile qu'une représentation toute conventionnelle de ce qu'il voit. Il voit l'arbre près de lui. Puis il fixe son regard plus loin, sur la route. Puis enfin, il le porte à l'horizon. Et, évidemment, selon le point qu'il fixe, les dimensions apparentes des autres objets sont chaque fois modifiées. Sur sa toile, il s'arrangera pour ne faire figurer qu'un compromis entre ces diverses visions. il s'efforcera de trouver un commun dénominateur à toutes ses perceptions en attribuant à chaque objet, non pas la taille et les couleurs et l'aspect qu'il présente quand le peintre le fixe, mais une taille et un aspect conventionnels, la taille et l'aspect qui s'offriraient à un regard fixé sur la ligne d'horizon. Les paysages ainsi peints ont donc l'aspect paisible, décent, respectueux, qui leur vient de ce qu'ils sont dominés par un regard fixé à l'infini. Ils sont à distance. Le spectateur n'est pas compromis avec eux. Ils sont, pour ainsi dire, de bonne compagnie. Et le regard glisse avec aisance sur un paysage sans aspérité qui n'oppose rien à son aisance souveraine. Mais ce n'est pas ainsi que le monde se présente à nous dans le contact avec lui que nous donne la perception. À chaque moment, pendant que notre regard voyage à travers le spectacle, nous sommes assujettis à un certain point de vue. Et ces instantanés successifs pour une partie donnée du paysage ne sont pas superposables. Le peintre n'a réussi à dominer cette série de visions et à en tirer un seul paysage éternel qu'à condition d'interrompre le mode naturel de vision. Souvent, il ferme un œil, mesure avec son crayon la grandeur apparente d'un détail qu'il modifie par ce procédé, et les soumettant tous à cette vision analytique, construit ainsi sur sa toile une représentation du paysage qui ne correspond à aucune des visions libres, en domine le déroulement mouvementé, mais aussi en supprime la vibration et la vie. Si beaucoup de peintres depuis Cézanne ont refusé de se plier à la loi de la perspective géométrique, c'est qu'ils voulaient ressaisir et rendre la naissance même du paysage sous nos yeux. C'est qu'ils ne se contentaient pas d'un compte-rendu analytique et voulaient rejoindre le style même de l'expérience perceptive. Les différentes parties de leur tableau sont donc vues de points de vue différents, donnant aux spectateurs inattentifs l'impression d'erreur de perspective, mais donnant à ceux qui regardent attentivement le sentiment d'un monde où jamais deux objets ne sont vus simultanément, où entre des parties de l'espace s'interpose toujours la durée nécessaire pour porter notre regard de l'une à l'autre, où l'être donc n'est pas donné, mais apparaît ou transparaît à travers le temps. L'espace donc n'est plus ce milieu des choses simultanées que pourrait dominer un observateur absolu, également proche d'elles toutes, sans point de vue, sans corps, sans situation spatiale, pure intelligence en somme. L'espace de la peinture moderne, disait dernièrement Jean Paulhan, c'est l'espace sensible au cœur, où nous sommes situés nous aussi, proches de nous, organiquement liés avec nous. Il se peut, poursuivait Jean Paulhan, il se peut qu'en un temps voué à la mesure technique et comme dévoré de quantité, le peintre cubiste célèbre à sa manière, dans un espace accordé moins à notre intelligence qu'à notre cœur, quelques sourdes noces et réconciliations du monde avec l'homme. Après la science et la peinture, la philosophie, elle aussi, et surtout la psychologie, semble s'aviser que nos rapports avec l'espace ne sont pas ceux d'un pur sujet désincarné avec un objet lointain, mais ceux d'un habitant de l'espace avec son milieu familier. Soit par exemple à comprendre cette fameuse illusion d'optique, étudiée déjà par Malebranche, et qui fait que la Lune, à son lever, quand elle est encore à l'horizon, nous paraît beaucoup plus grosse que lorsqu'elle atteint le zénith. Malebranche supposait ici que la perception humaine, par une sorte de raisonnement, surestime la grandeur de l'astre. Si en effet nous le regardons à travers un tube de carton ou une boîte d'allumettes, l'illusion disparaît. Elle est donc due à ce que, à son lever, la Lune se présente à nous par-delà les champs, les murs, les arbres, que ce grand nombre d'objets interposés nous rend sensible sa grande distance, d'où nous concluons que, pour garder la grandeur apparente qu'elle garde, étant cependant si éloignée, il faut que la Lune soit très grande. Le sujet qui perçoit serait ici comparable au savant qui juge, estime, conclut, et la grandeur perçue serait en réalité jugée. Ce n'est pas ainsi que la plupart des psychologues d'aujourd'hui comprennent l'illusion de la Lune à l'horizon. Ils ont découvert par des expériences systématiques que c'est une propriété générale de notre champ de perception de comporter une remarquable constance des grandeurs apparentes dans le plan horizontal, alors qu'au contraire, elle diminue très vite avec la distance dans un plan vertical. Et cela sans doute parce que le plan horizontal, pour nous, être terrestre, est celui où se font les déplacements vitaux, où se joue notre activité. Ainsi, ce que Malebranche interprétait par l'activité d'une pure intelligence, les psychologues de cette école le rapportent à une propriété naturelle de notre champ de perception, à nous, êtres incarnés et astreints à se mouvoir sur la Terre. En psychologie, comme en géométrie, à l'idée d'un espace homogène offert tout entier à une intelligence sans corps, se substitue l'idée d'un espace hétérogène avec des directions privilégiées qui sont en rapport avec nos particularités corporelles et avec notre situation d'être jeté dans le monde. Nous rencontrons ici pour la première fois cette idée que l'homme n'est pas un esprit et un corps, mais un esprit avec un corps, et qui n'accède à la vérité des choses que parce que son corps est comme fiché en elle.
Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l'eau. C'est toujours les yeux baissés que je la regarde. Comme le sol, comme une partie du sol, comme une modification du sol.
Vendredi de la philosophie, archive. Maurice Merleau-Ponty, 1948.
Si, après avoir examiné l'espace, nous considérons les choses qui le remplissent, et si nous interrogeons là-dessus un manuel classique de psychologie, il nous dira que la chose est un système de qualités offertes aux différents sens et réunies par un acte de synthèse intellectuelle. Par exemple, le citron est cette forme ovale renflée aux deux bouts, plus cette couleur jaune, plus ce contact frais, plus cette saveur acide, etc. Cependant, cette analyse nous laisse insatisfaits, parce que nous ne voyons pas ce qui unit chacune de ces qualités ou propriétés aux autres, et qu'il nous semble cependant que le citron possède l'unité d'un être dont toutes les qualités ne sont que différentes manifestations. L'unité de la chose demeure mystérieuse tant qu'on considère ces différentes qualités comme autant de données qui appartiennent au monde rigoureusement distinct de la vue, de l'odorat, du toucher, etc. Mais justement, la psychologie moderne, suivant en cela les indications de Goethe, a fait observer que chacune de ces qualités, loin d'être rigoureusement isolée, possède une signification affective qui la met en correspondance avec celle des autres sens. Par exemple, comme le savent bien tous ceux qui ont eu à choisir des tapisseries pour un appartement, chaque couleur dégage une sorte d'atmosphère morale qui la rend triste ou gaie, déprimante ou tonique. Et comme il en va de même pour les sons ou les données tactiles, on peut dire que chacune équivaut à un certain son ou à une certaine température. Et c'est ce qui fait que les aveugles, quand on leur décrit les couleurs, parviennent à se les représenter par l'analogie d'un son, par exemple. À condition donc qu'on replace la qualité dans l'expérience humaine, qui lui confère une certaine signification émotionnelle, son rapport à d'autres qualités qui n'ont avec elle rien de commun commence à devenir compréhensible. Il y a même des qualités très nombreuses dans notre expérience qui n'ont presque aucun sens si l'on met à part les réactions qu'elles suscitent de la part de notre corps. Ainsi, par exemple, du mielleux. Le miel est un fluide ralenti. Il a bien quelques consistances, il se laisse saisir, mais ensuite, sournoisement, il coule des doigts et revient à lui-même. Non seulement il se défait aussitôt qu'on l'a façonné, mais encore, renversant les rôles, c'est lui qui se saisit des mains de celui qui voulait le saisir. La main vivante, exploratrice, qui croyait dominer l'objet, se trouve attiré par lui et englué dans l'être extérieur. En un sens, écrit Sartre, c'est comme une docilité suprême du possédé, une fidélité de chien qui se donne même quand on ne veut plus de lui. Et en un autre sens, c'est sous cette docilité une sournoise appropriation du possédant par le possédé. Une qualité comme le mielleux, et c'est ce qui la rend capable de symboliser toute une conduite humaine, ne se comprend que par le débat qu'elle établit entre moi comme sujet incarné et l'objet extérieur qui en est le porteur. il n'y a de cette qualité qu'une définition humaine. Mais ainsi considéré, chaque qualité s'ouvre sur les qualités des autres sens. Le miel est sucré. Or, le sucré, comme dit Sartre, douceur indélébile qui demeure indéfiniment dans la bouche et survit à la déglutition, le sucré est dans l'ordre des saveurs cette même présence poisseuse que le visqueux réalise dans l'ordre du toucher. Dire que le miel est visqueux et dire qu'il est sucré sont deux manières de dire la même chose, à savoir un certain rapport de la chose à nous, ou une certaine conduite qu'elle nous suggère ou nous impose, une certaine manière qu'elle a de séduire, d'attirer, de fasciner le libre sujet qui se trouve confronté avec elle. Le miel est un certain comportement du monde envers mon corps et moi. Et c'est ce qui fait que les différentes qualités qu'il possède ne sont pas simplement juxtaposées en lui, mais au contraire, identiques en tant qu'elles manifestent toutes la même manière d'être ou de se conduire dans le miel. L'unité de la chose n'est pas derrière chacune de ces qualités, elle est réaffirmée par chacune d'elles est la chose entière. Cézanne disait qu'on doit pouvoir peindre l'odeur des arbres. Dans le même sens, Sartre écrit dans L'être et le néant que chaque qualité est révélatrice de l'être de l'objet. Le jaune du citron, poursuit-il, est étendu tout à travers ses qualités, et chacune de ses qualités est étendue tout à travers chacune des autres. C'est l'acidité du citron qui est jaune, c'est le jaune du citron qui est acide. On mange la couleur d'un gâteau, et le goût de ce gâteau est ce qui dévoile sa forme et sa couleur à ce que nous appellerions l'intuition alimentaire. La fluidité, la tiédeur, la couleur bleuâtre, la mobilité onduleuse de l'eau d'une piscine sont données d'un coup au travers les unes des autres. Les choses ne sont donc pas devant nous de simples objets neutres que nous contemplerions. Chacune d'elles symbolise pour nous une certaine conduite, nous la rappelle, provoque de notre part des réactions favorables ou défavorables. Et c'est pourquoi les goûts d'un homme, son caractère, l'attitude qu'il a prise à l'égard du monde et de l'être extérieur, se lisent dans les objets dont il choisit de s'entourer, dans les couleurs qu'il préfère, dans les lieux de promenade qu'il choisit. Claudel dit dans Connaissance de l'Est que les Chinois construisent des jardins de pierre où tout est rigoureusement sec et dénudé. Dans cette minéralisation de l'entourage, il faut lire un refus de la moiteur vitale et comme une préférence de la mort. Les objets qui hantent nos rêves sont de la même manière significatifs. Notre rapport avec les choses n'est pas un rapport distant. Chacune d'elles parle à notre corps et à notre vie. Elles sont revêtues de caractères humains, on dit qu'elles sont dociles, douces, hostiles ou résistantes, et inversement, elles vivent en nous comme autant d'emblèmes des conduites que nous aimons ou détestons. L'homme est investi dans les choses et les choses sont investies en lui. Pour parler comme le psychanalyste, les choses sont des complexes. C'est ce que voulait dire Cézanne quand il parlait d'un certain halo des choses qu'il s'agit de rendre par la peinture. L'essence de l'eau, par exemple, et de tous les éléments,